Chapitre 8. Départ de la Perse. Premier regard jeté sur l'Inde. Les grandes villes. Un éléphant. Les divers enfants de Brahma. Une forêt. Rencontre sous les arbres. Un convoi. La chasse au tigre. Le brahmine médecin. Histoire du Canadien. Arrivée au bungalow. Invitation d'un Raja. Un courrier. Une lettre datée de Macao. Jacques à Robert Kergorieux et à Horace Verpré. La factorerie de Macao. Les deux négociants arrêtés. Un escogriffe. Haut dignitaire. Une bouteille de rhum. Commerce. Jacques invite ses amis à venir près de lui pour faire un voyage en Chine. Horace Verpré avait entrepris de donner suite à son projet. Il s'agissait pour lui, comme on se le rappelle, de répondre par un prompt départ à la lettre de Jacques et de se mettre en route pour la Chine. Un oracle des temps modernes conseille de se défier du premier mouvement. Horace Verpré devait comprendre bien vite, en effet, que le sien avait été trop irréfléchi. Pour aller d'Ispahan à Macao, quand on est à peine un homme, seul, sans carte ni boussole, il faut s'attendre à 1000 déconvenues, à la rencontre de 1000 obstacles imprévus, à des contretemps sans nombre et à des impossibilités sans cesse renaissantes. Aussi, Horace Verpré revenait-il sur ses pas quelques heures après s'être mis en route. « Tu as raison, » lui dit Robert Kergorieux en le serrant dans ses bras. « Ce serait une folie que de nous séparer. Nous irons rejoindre nos amis à Macao un jour ou l'autre, mais nous irons ensemble. Cependant, pour calmer leur inquiétude et les informer de nos dispositions, écrivons-leur que nous nous rendons d'abord au bungalow de Sir James Primrose, près de Lahore, et qu'ensuite nous irons les rejoindre. » Leur dépêche une fois faite, ils s'embarquèrent pour aller à Lahore. Ainsi la scène de notre récit change brusquement. Nous ne sommes plus à Macao avec Claude Marteau et Jacques, qui sont en train de fonder un de ces comptoirs de commerce auquel on a donné le nom de factorerie. Nous arrivons en vue de l'Inde anglaise, dans l'un des ports de la compagnie. Au sortir de la Perse, pendant la traversée qui les menait de la mer Rouge dans les eaux qui mouillent la presqu'île du Gange, Robert Kergorieux et Horace Verpré changèrent de costume. On avait mis à leur disposition un coffre tout plein de ces vêtements légers dont le style est européen et l'étoffe asiatique. C'étaient des chemises de lin, des pantalons de Nankin, des habits de soie et des chapeaux en paille de riz. Quand on aborde la Haute-Asie, l'intolérance mahométane ne vous fait plus une loi impérieuse du turban, du burnous, du cafetan et des sandales. Cette partie du vieux monde, tour à tour française et anglaise, admet plus de liberté. Les sectateurs de Brahma et de Bouddha se rapprochent d'ailleurs plus, par les sentiments, de la mansuétude chrétienne. Ceux qui arrivent de l'Occident reçoivent un accueil bienveillant. Ce pays étale tant de genres de beauté que l'étranger qui le parcourt ne peut retenir à chaque pas un cri d'admiration. « Robert, disait Horace à son ami, te rappelles-tu l'empressement que Claude Marteau mettait à voir un chameau quand nous sommes entrés en Orient ? J'ai comme lui un désir, c'est de contempler un éléphant sur la terre même où les éléphants viennent au monde. » À 100 pas de là, au milieu d'une nature luxuriante, leur guide leur montrait le superbe animal, détaché momentanément d'un groupe de voyageurs et ayant l'air de paître en liberté. Un peu plus loin, en avançant, ils se mêlaient à une civilisation toute nouvelle pour eux. Aux planteurs anglais s'unissaient des groupes d'esclaves et de serviteurs au teint bronzé. Des femmes, nées de sang européen et éblouissantes de blancheur, passaient, portées dans ces espèces de litières qu'on appelle palanquins. Le dromadaire des déserts arabes se retrouvait sur les places publiques près du cheval. Des pèlerins s'en allaient à Bénarès pour faire des ablutions dans le Gange, le fleuve sacré, comme ils avaient vu les pieux musulmans se diriger vers la Mecque. En passant, ils entendaient prononcer des noms que la géographie leur avait déjà fait connaître. Agra, Bombay, Calcutta, Delhi, Singapour. Quel magique coup d'œil pour l'Européen que ces villes qu'on dirait bâties par des géants, tant elles sont immenses. Un ciel toujours bleu et un soleil d'or servent d'encadrement à ces cités pleines de merveilles. Delhi a des palais aussi vieux, dit-on, que la terre qui les porte. Bombay voit affluer dans ses magasins tout l'or de l'Asie. Calcutta sert d'entrepôt à tous les objets de commerce que l'Europe envoie à l'Inde, au Birman, au Tibet et à la Chine. Agra, cette ancienne capitale de l'Empire moghol, si remarquable par sa forteresse et le palais des empereurs, Agra étonne toujours celui qui passe. Où y a-t-il plus de mosquées? Où voit-on plus de pagodes en marbre ou en porcelaine? Où la truelle des hommes a-t-elle lancé un plus grand nombre de tours dans les airs? Salut à l'Inde! Salut au berceau du genre humain! Ce cri partait à tout moment des deux jeunes poitrines françaises. Robert Kergorieux était surtout sous le charme d'une irrésistible émotion. Par les récits que Jacques lui avait faits autrefois dans la petite maison de Saint-Malo, il savait que son intrépide et glorieux parrain avait visité ce pays et que, durant la guerre, il s'y était fait plus d'une fois redouter des Anglais. Il semblait au jeune homme que quelques-unes des traces du capitaine Surcouf fussent demeurées imprimées sur ce sol. Aux environs de Lahore, ainsi que nous l'avons déjà dit, Sir James Primrose habitait un bungalow, sorte de résidence moitié asiatique, moitié anglaise. C'était là que nos deux voyageurs étaient attendus. Comment voulez-vous faire la route? Demandèrent les guides. En palanquin? Voilà 8 lascars qui vont s'atteler à une litière pour vous emporter. À dos de chameau? Nous avons ici aussi l'animal appelé le navire du désert. À cheval ou sur une tour portée par un éléphant? Sir James Primrose vous laisse le choix.
Nous aimons mieux aller à pied, répondirent Robert et Horace.
Ils marchèrent donc, accompagnés d'un petit cortège de gens armés. C'étaient des serviteurs des diverses zones de l'Inde, des Sipaïs, des Sikhs, des Marathes et 2 ou 3 Européens ayant assez d'autorité pour se faire obéir aveuglément de toute la troupe. Nos deux jeunes gens ne manquaient pas de se montrer étonnés à la vue d'une telle soumission. Encore si peu expérimentés, ils ignoraient que cette terre de l'Inde est la plus vieille patrie des poètes et des sages. C'est une vaste et riche contrée, située entre 2 chaînes de montagnes, baignée par la mer, arrosée par de grands fleuves et couverte de villes. Il faudrait dire de capitales éblouissantes. Un grand calme règne en tout temps sur cette terre bénie du ciel. Là, point d'ambition, point de frivole rivalité comme chez les autres peuples du monde. Robert et Horace comprirent vite que les idées religieuses avaient un souverain ascendant sur l'esprit de tous ceux qui les entouraient. Chaque hindou appartient irrévocablement à la caste dans laquelle il est né. Il n'en peut sortir que par la mort. Chaque caste a son devoir irrévocablement tracé sur cette terre. Ainsi, le brahman instruit la jeunesse et dirige les sacrifices. Le kshatriya rend la justice au peuple et le défend les armes à la main. Le vaisya cultive la terre et fait le commerce. Le paria est l'esclave de ses frères aînés. Il est né pour les servir, pour leur obéir avec respect. Personne, dans aucune de ces castes, ne cherche à enfreindre la volonté de Brahma, le dieu de l'Inde. Car prêtres et juges, soldats, laboureurs et parias, tous sont les fils de Brahma. Seulement le brahman est né de la tête de Brahma. Le guerrier est sorti de son bras. Le laboureur, de sa cuisse. Le paria est issu de ses pieds.
Chemin faisant, nos deux amis se faisaient expliquer les divers échelons de cette hiérarchie sociale. Ils apprenaient donc que la soumission est le premier devoir de l'hindou et que, s'il a obéi toute sa vie, quand il est mort, il quitte sa caste pour passer dans une caste meilleure. Les hindous de la première caste ne sont pas soumis aux travaux de la vie civile. Enfants, ils suivent la leçon d'un prêtre. Puis ils deviennent ou chefs de maison ou anachorètes. La vie contemplative est forte en honneur chez les brahmes. Souvent, disait un des guides aux jeunes voyageurs, très souvent, au milieu des vieilles et magnifiques forêts qui couvrent cette terre de repos, vous rencontrez ces vénérables vieillards dégagés du monde qui ne songent qu'à veiller sur leur âme. Les uns vivent tout seuls, sous quelques roches reculées au bord d'un ruisseau, et leur vie se passe dans les méditations et le recueillement. Les autres réunissent en commun leurs vertus et leurs prières, et tel est l'ascendant de leurs vertus, que même les bêtes féroces de la forêt se courbent devant eux et les saluent avec respect. Toute médaille a son revers. Dans les excursions à travers les bois, les jungles et les grands paysages de la contrée, on rencontre parfois le tigre emportant un morceau de chair vive aux dents. On marchait toujours. 2 heures environ avant d'arriver au bungalow de Sir James Primrose, on avait à traverser une forêt et en sortant d'une clairière pour entrer dans des massifs d'une certaine profondeur, le chef de l'escorte ordonna de charger les armes. « Messieurs, ajouta-t-il en s'adressant aux deux jeunes Français, je sais que vous êtes des hommes braves. Vous ne vous effrayerez donc pas de me voir prendre cette précaution. À la vérité, ce sera, je le crois, une mesure absolument inutile, car il est très rare que les tigres se permettent de se montrer en plein jour. La présence de l'homme suffit pour les faire fuir. Cependant, on ne sait pas ce qui peut arriver. » On marchait toujours, on fit ainsi, toujours en causant, plusieurs centaines de pas. Robert et Horace s'arrêtaient de temps en temps pour admirer la puissance de cette végétation qui dépassait tout ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce jour. Les chênes druidiques de leur Bretagne leur faisaient l'effet de rosiers nains en regard de ces arbres gigantesques. Parfois, un mamelon de montagne crevassée les forçait à faire halte. « Messieurs, la montagne que vous voyez, leur disait le guide, est le cratère éteint d'un volcan. » Une fois, en longeant une de ces collines toutes sillonnées de ravins, ils entendirent comme un bruit de pas précipités sur les branches de bois morts et sur les feuilles sèches. Bientôt, le son de plusieurs voix humaines vint frapper leurs oreilles. Un vent léger qui soufflait du sud apportait jusqu'à la petite troupe des lambeaux d'un dialogue animé. « Il me semble reconnaître ces voix-là, » dit le guide. Puis, prenant à sa ceinture une petite trompe de corne, il ajouta « Au fait, nous allons bien voir si ce que je suppose est vrai. » En même temps, il tira quelques sons de son instrument. Au bout d'une minute, un son exactement semblable lui répondait. « Allons, j'avais deviné juste, » dit-il encore. « C'est Sir James Primrose et ses gens qui viennent au-devant de nous. » Peu d'instants après, effectivement, le bruit des pas se rapprochait d'une manière sensible, et la tête d'une espèce de convoi commençait à se montrer à travers les troncs et les branches des arbres. « Monsieur Robert Kergorieux, soyez le bienvenu !» Ces paroles furent tout à coup prononcées en très bon français par un homme qui avait le costume et l'allure d'un chasseur. Sir James Primrose, car c'était bien lui, était coiffé d'un chapeau à large bord, tressé en bois de liane. Il avait les habits légers qu'on porte en toute saison dans le pays, des guêtres, un couteau de chasse au côté, une poire à poudre et une très forte carabine. Il sauta au cou du filleul de Robert Surcouf et l'embrassa avec la plus tendre effusion. « Oui, continua-t-il, soyez le bienvenu, vous et votre ami, quoiqu'en vérité le hasard vous amène dans un mauvais moment. Que voulez-vous dire, mon cher hôte ?» L'anglais montra du doigt le restant de son convoi qui arrivait à petits pas. « Quatre hindous portaient sur une sorte de brancard, formé avec des branches coupées, un homme sur le visage duquel paraissaient déjà s'étendre les pâles atteintes de la mort. Une large et profonde blessure, ouverte sur le haut de la poitrine, laissait par moments s'échapper des larges gouttes de sang de ce corps à peu près inanimé. À la suite de ce premier brancard, en venait un autre, aussi porté à bras par quatre hindous. Celui-là soutenait non un homme, mais un animal d'une grandeur démesurée, dont la tête était fracassée d'un coup de feu et qu'on reconnaissait bientôt pour être un tigre. Enfin, d'autres esclaves apportaient dans des espèces de corbeilles deux animaux vivants, mais gros au plus, comme des chats, et qui paraissaient être de la famille du monstre tué. Sir James Primrose frappa deux coups dans ses mains et tout le monde fit halte.
« Sommes-nous loin du lieu où se tient le brahmine Soepuzai, surnommé le médecin de l'âme et du corps ?»«
Non, sir, l'anachorète ne peut être à plus de 200 pas d'ici. »«
Dans ce cas-là, faites comme moi, appelez-le !»
Sir James Primrose et le guide mirent de concert leurs trompes en mouvement. Ils en tirèrent un son particulier qui ressemblait à une mélopée plaintive et convenue.
Si le saint homme est dans le voisinage, il ne tardera pas à venir.
L'anglais ne se trompait pas. Un grand vieillard à la figure pâle et amaigrie se montra sans retard. Il portait en guise de vêtement un sarrau de cotonnade bleue qui tombait en haillons. Mais sur son front lisse et sur sa figure empreinte d'un calme surhumain, on voyait que les petites choses de ce monde ne le préoccupaient que médiocrement. Il s'avança vers Sir James Primrose.
« Mon fils, dit-il, qui m'a appelé ?
C'est moi.
En quoi un pauvre solitaire peut-il être bon à un riche gentilhomme anglais ?
Saint homme, voici sur ce brancard Waitahu, un de mes meilleurs serviteurs, un fils du Canada que j'ai amené avec moi de l'Amérique du Nord. Tout à l'heure, à la chasse, il a eu la poitrine ouverte par les ongles d'un tigre. Je crains qu'il ne soit en danger de mort. Par bonheur, tu connais la vertu des plantes de ce bois. Tu possèdes le secret des baumes souverains. Je viens donc te prier de guérir la blessure de Waitahu.
Ce que tu me demandes là, gentleman, m'est ordonné par celui qui a fait toutes choses. Ainsi j'obéis.
En parlant ainsi, il fit quelques pas dans l'intérieur du bois, arracha çà et là quelques herbes, en exprima le jus dans une fiole de cristal qu'il portait à son cou, y mêla le suc d'une écorce de citron, puis, après s'être approché du brancard, il ondoya la plaie béante du Canadien.
« Ne faut-il pas la coudre avec du fil de lin ?» demanda l'anglais.
Au lieu de répondre, le brahmine posa sa fiole sur les lèvres du moribond, effeuilla un lotus, fleur sacrée, sur son front et dit
« Qu'on le place maintenant au pied d'un arbre sur un lit de fougère. Il y dormira une heure environ. À son réveil, on lui fera boire un verre de vin de riz et il guérira peu à peu. »
« Mille grâces, saint homme !»
s'écria alors Sir James Primrose.
« Quelle récompense demandes-tu pour un pareil bienfait ?»«
Une très grande. »«
Mais laquelle ?»«
Celle-ci. Promets-moi de ne jamais répandre le sang, même le sang des tigres. »
L'anglais voulait le rappeler et le retenir, mais il s'était enfui sous les arbres et avait disparu. Cette scène avait causé de vives émotions aux assistants. Pendant qu'on se mettait en devoir d'obéir aux prescriptions du brahmine, Sir James Primrose, faisant servir une collation sur l'herbe, racontait à ses nouveaux hôtes ce qui venait de lui arriver.
« Sachant que vous deviez arriver aujourd'hui au bungalow, dit-il, je m'étais mis en marche pour vous joindre plus vite. Waitahu, un homme du Canada primitif, le compagnon de presque tous mes voyages m'accompagnait, ainsi que tous ceux que vous voyez autour de moi. En prenant par le bois, nous n'avions aucunement l'intention de chasser.
Mais dans ce pays, il faut, quand on s'écarte de chez soi, se tenir en garde contre toute mauvaise rencontre. Après 3 heures de marche, Waitahu et moi, un peu fatigués, car nous marchions à 200 pas en tête de l'escorte, nous nous arrêtons à un des carrefours de la forêt, près d'une excavation de la montagne, une petite caverne, si vous voulez. Tandis que j'étais occupé à fourbir ma carabine, le Canadien, furetant autour de lui, suivant l'habitude de ceux de sa race, se mit à pousser une exclamation de surprise. Bientôt, il reparut auprès de moi, portant sous chaque bras un animal singulièrement tacheté, qui avait la taille d'un petit chat d'Europe et dont la mâchoire était armée de dents incisives formidables. Les yeux de ces animaux étaient d'un ton verdâtre. Ils avaient de longues griffes à leurs pieds. Leur langue d'un rouge de sang pendait hors de leur gueule. À peine eus-je vu mon Américain revenir avec cette double proie que je m'écriais « Juste ciel, mon pauvre Waitahu! Nous sommes tout près de la caverne d'un tigre !» Mais je fus presque interrompu par l'arrivée soudaine d'un survenant que nous n'attendions assurément ni l'un ni l'autre. À 30 pas de nous, une tête de tigresse, où étincelaient des yeux qui lançaient sur nous des regards furieux, se dressait menaçante comme la vengeance. « Waitahu, lâche tes deux bêtes et défends-toi » Je n'eus que le temps de lui donner cet ordre, qu'il exécuta du reste avec une extrême précipitation. D'un bond, la mère furibonde s'élançait sur lui, le Canadien en possession d'un sang-froid héroïque, saisissant alors un long couteau de chasse qu'il portait à la ceinture, l'attendit à portée de son bras et lui fit dans le ventre une entaille profonde. Un rugissement terrible et plaintif répondait à cette agression. En ce moment, je m'approchais pour aider à la délivrance du combattant, lorsque d'autres cris et des rugissements plus formidables résonnèrent sous les feuilles. C'était le tigre qui accourait au secours de sa femelle. Me voyant armé d'un fusil, il grimpa à un arbre, ou pour éviter d'être visé ou pour s'élancer plus facilement sur moi. Pendant ce temps-là, le pauvre Waitahu combattait seul contre sa puissante ennemie. Je blessai le tigre à la cuisse, il tomba à terre et prit la fuite, en poussant des hurlements effroyables. « À l'autre maintenant » m'écriai-je. Je rechargeai mon arme et m'approchai pour fracasser la tête du monstre. La chose arriva comme je l'avais espéré, mais pas assez rapidement pour empêcher la tigresse d'effondrer la poitrine de mon serviteur. Elle gisait mourante sur l'herbe, mais le Canadien était étendu à ses côtés, presque sans mouvement et sans vie. J'appelai ma troupe pour le relever. Une particularité curieuse, c'est que les deux petits, tout en poussant des miaulements pleins de furie, se préparaient à se jeter sur mon ami. Il m'eût été facile de les assommer à coups de crosse. Je n'ai pas voulu en venir à cette extrémité, et je les ai fait recueillir dans cette corbeille où vous les voyez. « Telle est mon histoire de tout à l'heure, » dit le gentleman.
« Ah, Sir James, que n'étais-je là pour vous prêter main forte ? » s'écria Robert Kergorieux. « Je vous prie de croire que le tigre n'aurait pas eu le temps de s'enfuir. »
« Mon jeune ami, » reprit l'anglais, « je sais par expérience que vous êtes déjà un habile tireur, mais sachez bien que le chasseur d'Europe le plus habile échouerait dans des expéditions de la nature de celles dont je viens de vous parler. D'ordinaire, dans l'Inde, on pratique près du repère des tigres une longue cage à claire-voie dans laquelle se mettent les chasseurs. Ceux-ci posent ensuite le canon de leur fusil sur l'appui des claires voies, et quand le terrible gibier se présente en rugissant, on l'abat avec ces balles aiguës qu'on fabrique maintenant en France. »
Il s'était écoulé 1 heure depuis que le Brahmine avait pansé la plaie du Canadien. Ce dernier ouvrit un peu les yeux et prononça quelques mots sans suite.
« Mon maître, les tigres, prenez garde !»
Sir James Primrose rassura son courageux serviteur et lui fit voir les deux petits tigres captifs dans la corbeille.
« Waitahu ! » ajouta-t-il. « Nous nous remettons en route et nous retournons au bungalow où nous ne négligerons rien pour te rendre la santé. »
Cependant,
la nuit tomba presque tout à coup. Nos deux amis ne pouvaient se lasser d'admirer le spectacle d'une nuit de l'Inde, étendant sur la forêt sa mantille de dentelle noire, toute brillante d'étoiles d'or. Le ciel de l'Asie ne les avait pas encore frappés à ce point de ses splendeurs et de sa sublime majesté. Au moment où l'on arriva à la résidence, trois personnages portant le costume des soldats du pays se tenaient au milieu d'une sorte de cour d'honneur. Aussitôt que Sir James Primrose se fut montré, un d'eux, tirant de son sein une espèce de dépêche, s'approcha de lui et, après s'être incliné respectueusement, lui dit « Mon maître nous a chargé de t'apporter ce paquet. » L'anglais fit sauter l'enveloppe en un instant et, après avoir lu « Messieurs, dit-il en se tournant du côté des deux Français, un prince de mes voisins, le Raja de Manopur, m'invite pour dans 5 jours d'ici à une chasse aux éléphants. Voulez-vous y prendre part ?» Une double exclamation de joie se fit entendre au même instant. Horace Verpré regardait l'événement comme une fête. Sir James Primrose fit ensuite conduire ses deux hôtes aux appartements qui leur étaient destinés. On s'empressa aussi d'entourer le Canadien des plus grands soins. Un courrier lascar, tout essoufflé, ruisselant de sueur, venait d'arriver au bungalow. L'homme tenait à la main un petit paquet cacheté dont l'adresse était conçue comme il suit. « À messieurs Robert Kergorieux et Horace Verpré, voyageurs français, au bungalow de Sir James Primrose, résident anglais, près de Lahore, remettre la lettre en main propre ou, si les destinataires sont absents ou partis, la faire suivre dans les différents districts de l'Inde anglaise. » Robert n'avait pas besoin d'ouvrir la lettre pour deviner qu'elle venait de Jacques. « Viens donc vite, Horace » s'écria-t-il. « Voici des nouvelles de nos amis !» Et il lui donna lecture de la lettre dont voici le texte. Macao, 15 avril. Jugez de ma joie, mes chers enfants. Je sais où vous êtes, et je puis vous apprendre où nous sommes, Claude Marteau et moi. Avant d'avoir reçu votre lettre, un négociant d'Ispahan, qui fait le commerce de cabotage dans la presqu'île du Gange et jusque sur les côtes de la Chine, vous a rencontré à plusieurs reprises, tantôt en Perse, tantôt dans l'Inde, et m'avait informé que vous vous rendiez au bungalow de Sir James Primrose, notre convive des bords du Nil. Vous pensez bien qu'il ne m'est pas possible de résister au désir que j'éprouve de vous écrire sans retard. Il faut bien que j'essaye de vous apprendre où nous en sommes, le bon Claude et moi. Depuis le jour à jamais maudit où j'ai commis l'imprudence de m'éloigner de Jeddah sans vous avoir vu, nous avons eu des aventures de toutes couleurs. Un jour, qui sera très prochain, je l'espère, nous égrènerons devant vous, à table ou au coin du feu de la petite maison de Saint-Malo, le long chapelet de nos histoires. Pour le moment, je dois me contenter de vous dire 2 mots de notre situation actuelle. Voilà déjà 2 mois que nous sommes installés à Macao, ville bizarre, peuplée d'Asiatiques, mais plus européenne que chinoise. Les bazars et les factoreries comptent ici beaucoup de marchands anglais, hollandais et portugais. Nos compatriotes, les Français, qui sont toujours les derniers à se dénationaliser, arrivent peu à peu et prennent aussi des comptoirs pour se livrer au trafic du thé, des dents d'éléphant et de la soie. Pour ne pas brusquer les naturels du pays ni les acheteurs de l'Asie, tous nos négociants s'affublent du costume traditionnel de la Chine. Je vous vois d'ici rire à gorge déployée en vous figurant vos 2 amis déguisés en habitants du céleste empire. Le fait est que la chose ne manque pas d'avoir un côté comique assez prononcé. Claude Marteau surtout est curieux à contempler dans ce nouvel accoutrement. Une toque de soie, la tête rasée avec une queue postiche enrubannée qui descend jusque sur les talons, une robe de soie brune, des sandales à grosses semelles, un parasol et un éventail à la main. N'est-ce pas à exciter la jovialité d'une mouche ? Parlons un peu sérieusement. Si nous ne sommes pas tout à fait riches,
au moins sommes-nous en voie de le devenir. L'idée au reste est venue de moi, j'ose vous le dire. Jusqu'à ce jour, j'avais fait fi de l'or. Je me disais volontiers que l'argent n'ajoute rien au bonheur, et même qu'il le dépare assez souvent. Mais en voyage, nous nous sommes trouvés dans une situation qui a dû faire varier mes sentiments à cet égard. Séparés de vous par des mers immenses, jetés sur les côtes de la Chine à 500 lieues de vous, j'ai compris qu'il ne me serait facile et même possible de vous revoir qu'à la condition de pouvoir faire des sacrifices d'argent, d'abord pour apprendre où vous êtes, ensuite pour vous faire venir à nous ou bien pour vous rejoindre. C'est en roulant cette pensée dans ma tête et en la communiquant à mon compagnon de voyage que j'ai eu comme conséquence le dessein de faire du commerce. Il a fallu avoir du courage, il a fallu s'ingénier, il a fallu vendre des confitures. Cela a été sublime et grotesque, ainsi que vous l'apprendrez en temps et lieu. Pour le quart d'heure, mes chers enfants, nous sommes sur la lisière de l'Empire chinois où nous avons fondé un établissement d'une certaine importance. C'est une espèce de grand bazar, ou plutôt une factorerie, ainsi que cela s'appelle ici, établie sur le bord d'une des rivières de la ville. Nous y vendons toutes sortes de marchandises. Grâce à cette industrie, nous avons des domestiques, un train de maison et une bonne table à la chinoise, qui vous attend tous les deux avec la plus vive impatience. Il n'est pas de rose sans épines, ainsi que le dit un proverbe de notre pays. Pour donner quelque extension à notre commerce, nous avons eu l'idée de nous écarter un peu de Macao. Sur le conseil de plusieurs négociants, nous avions de très belles chances en parcourant l'archipel malais pour y échanger des fusils et autres armes à feu contre de la poudre d'or. Nous nous sommes donc décidés un jour à organiser une petite cargaison et à nous aventurer dans ces parages. Claude Marteau était fort résolu. « Mais, malheureux enfant, lui disais-je, tu sais bien que nous avons déjà eu beaucoup de peine à échapper aux embûches et à la férocité des naturels de cette contrée. Y aller maintenant, n'est-ce pas s'exposer à n'en plus revenir ?»« Jacques, me répondait-il, ces raisons-là ne valent pas un centime, qui ne hasarde rien à rien. Voulons-nous, oui ou non, devenir riches afin de retrouver plus sûrement nos amis? Si c'est oui, il n'y a pas à balancer. Il ne faut pas nous immobiliser à Macao, où nous prospérerons sans doute, mais avec une extrême lenteur. Ces îles qu'on nous recommande de visiter sont encore vierges, ou à peu près, des atteintes de la civilisation européenne. Il est à croire que le diable sera bien fin s'il nous empêche d'y faire de bonnes affaires. » Notre drôle sait bien qu'avec cet argument-là, voulons-nous revoir nos amis, il me ferait aller au bout du monde. Ainsi mes objections tombaient comme un vent léger que la pluie abat vite. Voilà nos économies consacrées à acheter des armes à feu, de la poudre, des miroirs, quelques friandises, une caisse de tafia, et nous voilà partis. À 8 jours de là, au moment où nous côtoyons une espèce de promontoire dont je ne sais point le nom, attendu qu'il n'en a peut-être pas encore, 15 canots, sculptés d'une étrange manière dans un seul tronc d'arbre, nous environnent tout à coup. On monte sur notre yacht, qui n'avait pour le protéger que 3 matelots, Claude et moi. Un grand escogriffe malais à figure basanée et singulièrement tatouée nous déclare que nous sommes prisonniers du grand roi Tonibi, dont le palais est situé un peu par-delà le promontoire dans l'intérieur des terres. « Eh bien, dis-je, qu'on nous conduise devant le grand roi Tonibi !» La situation n'était pas des plus agréables, mais à dire vrai, nous n'étions pourtant pas fort effrayés. Déjà, dans nos relations commerciales à Macao, où l'on voit sans cesse un échantillon de l'univers vivant, nous avions eu l'occasion de contempler souvent de près un grand nombre de têtes couronnées des îles voisines et des environs. En général, ces souverains de quelques kilomètres carrés sont peu enclins à la mansuétude, très avides, très curieux. Mais un Européen qui sait conserver son sang-froid en leur présence ne manque pas de trouver 1000 moyens d'atténuer la force de leurs mauvais penchants. Ivrognes, ignorants, crédules,
Ils ressemblent à l'enfant qu'une volonté énergique et éclairée séduit, soumet ou comprime. Il existe d'ailleurs chez chacun d'eux une corde éternellement sensible et dont on obtient tout ce qu'on veut quand on a assez d'habileté pour la faire vibrer. C'est la vanité, cette sœur cadette de l'orgueil, sœur qui date, comme son aînée, du commencement du monde. « Oui, répétai-je à dessein d'un ton résolu, oui, qu'on nous conduise au plus vite auprès du grand roi Tonibi. » Les Malais qui s'étaient emparés de notre yacht ne revenaient pas de notre assurance. Croyant nous intimider, le grand escogriffe dont j'ai déjà parlé nous dit « Mais le grand roi Tonibi n'aime pas les figures pâles, les blancs. Il nous donnera chacun un de ses beaux fusils pour vous tuer. »« C'est ce qu'il faudrait voir, » répliquai-je. « Mais je n'en crois rien. Le grand Tonibi, dont le nom remplit toute la terre, nous écoutera, ses hommes et moi. Il saura que nous abordons dans cette île pour lui rendre hommage, et il punira du dernier supplice quiconque aurait l'audace d'arracher un seul cheveu de notre tête. » Pour le coup, l'insulaire ne savait trop que penser. Il voyait que je lui rivais assez bien son clou, comme on dit en France. Cependant, nos fusils, notre poudre et toute notre cargaison, excitant sa convoitise et celle de ses compagnons, il fit amarrer le petit navire au rivage à un tronc d'arbre, et nous descendîmes à terre. Avant d'opérer cette descente, j'avais dit à demi-voix à Claude Marteau de ne pas oublier de prendre avec lui une bouteille de rhum, des conserves de cerises et quelques menus objets de bimbeloterie. Il y joignit aussi un revolver d'un assez bon calibre. Ces préparatifs terminés, nous marchâmes environ 3/4 d'heure sur une terre assez rocailleuse, escortés d'une vingtaine d'hommes noirs dont les yeux et les longues dents aiguisées ne nous pronostiquaient rien de bon. « Jacques, me disait Claude Marteau en français, je prends Dieu à témoin que je n'ai pas précisément peur de toute cette canaille, mais je crois bien qu'il aurait mieux valu rester en bon négociant dans notre factorerie de Macao, où je faisais de si beaux songes toutes les nuits. Je suppose que nous viendrons aisément à bout du monarque dépenaillé devant lequel ils nous conduisent, mais le contraire aussi serait possible, et, dans ce cas-là, Jacques, je serais désolé d'avoir causé le malheur du meilleur de mes amis.
Allons, rassure-toi, Claude, ce ne sera rien.
Voilà le palais du roi, s'écria ici l'escogriffe d'un air de triomphe.
Claude Marteau et moi, nous eûmes toutes les peines du monde à nous empêcher de partir d'un éclat de rire en l'entendant prononcer ces paroles. Le palais du roi! Figurez-vous une agglomération de 4 ou 5 huttes dont nos petits porchers de la Basse-Bretagne ne voudraient pas pour loger eux et leurs pensionnaires. C'était cependant dans une de ces cabanes, ne s'élevant pas à hauteur d'homme, que trônait le puissant monarque devant lequel on nous amenait dans l'attitude de suppliant.
« Voici le palais du grand roi Tonibi, » reprit l'escogriffe dont il a été plusieurs fois question. « Suivez-moi !»
Il nous introduisait ainsi sans plus de cérémonie chez le brillant potentat. Ce dernier était pour le moment couché, plutôt qu'assis, sur une longue natte en paille de riz. Pour charmer ses loisirs, sa majesté était occupée à manger, je devrais dire à sucer une branche de pomme cannelle, originaire du Congo. En voyant arriver une bande entière sans avoir été prévenu, le roi manifesta bien quelque léger étonnement, mais comme l'incident avait l'air d'être un événement familier et souvent renouvelé pour lui, il ne se dérangea pas d'abord. Ce ne fut que lorsqu'il aperçut la bouteille de rhum que je tenais à la main qu'il se décida à laisser là sa pomme cannelle et à se lever sur ses jambes. Il nous fut alors loisible de contempler ce puissant souverain dans tout l'éclat de sa grandeur. Tonibi était d'une taille assez élevée, que rehaussait encore une énorme chevelure. Un peu moins bistré que les naturels de son île, il était pourtant d'une race malaise bien accentuée. Des moustaches noires et de légers tatouages rayaient le cuivre de son visage. Ce qu'il avait de particulier, c'était sur la tête une abondante profusion de boucles de cheveux blancs qui paraissaient avoir frisé naturellement.
Cette cascade bizarre était surmontée d'une manière de plumet terminée par une houppe en plume de héron. Il paraît que cet ornement était le signe de sa dignité, quelque chose comme un diadème ou comme une couronne. Bien d'autres choses attiraient en lui l'attention. Par exemple, de grands et lourds anneaux de cuivre étaient attachés à ses oreilles. Une sorte de chaîne, en dents de requin, tombait des ondes de sa chevelure sur sa poitrine nue et tatouée. « Très puissant roi, m'écriai-je, ô toi dont le nom remplit l'univers, tu vois devant ta natte cinq hommes pâles qui naviguaient sur les mers de tes états, non pour dévaster ton empire, comme on essayera peut-être de le dire faussement, mais, au contraire, afin d'avoir occasion de te rendre un hommage public.
« Comment ça ? » demanda Tony B.
« Rien de plus simple, repris-je en montrant la bouteille. Si nous avions voulu nous présenter ici en pillard et en incendiaire, qu'eussions-nous fait ? Nous fussions venus 20 ou 30 armés de sabres, de pistolets, de javelines, de fusils et même de canons. Au lieu de cet attirail, nous n'avons apporté que des rafraîchissements pour la bouche de Sa Majesté, et nous ne sommes que 5, tous fort inoffensifs.
« Mais qu'y a-t-il dans cette bouteille ? » demanda le roi.
« La liqueur divine à l'aide de laquelle les hommes pâles réveillent les morts. »
« Tu veux dire du rhum ?»«
Oui, sire. » Je vis que Tony B connaissait et aimait le tafia de longue date. Il tendait même déjà ses mains royales pour avoir le flacon. « Un moment, ô grand roi » m'écriai-je. « Je suis tout prêt à déposer cette bouteille aux pieds de ta majesté, mais d'un autre côté, je crains de déplaire à un des grands de ton royaume. » Et du doigt, je montrai l'escogriffe.
« Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Tony B.
Cela veut dire que tout à l'heure, le personnage en question m'a dit « Étranger, tu auras bien soin de ne donner cette bouteille qu'à moi, ou sinon... »
« Comment ? Il a osé dire cela ?»
s'écria le monarque en tournant sur l'introducteur des yeux courroucés. Ici, celui que j'appelle l'escogriffe fit un geste. Il essaya de remuer les lèvres pour se justifier, mais le souverain offensé ne lui en laissa pas le temps.
« Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il parlait de nous prendre tout ce que nous possédons, » ajouta Claude Marteau.
Tony B était entré dans une fureur indescriptible.
« Voilà, triple jaguar ! » s'écria-t-il. « De quelle manière tu te comportes avec les étrangers les plus estimables ? Eh bien, tu vas te repentir de tant d'audace !»«
Qu'on le saisisse !» dit-il. « Qu'on l'attache à un arbre et qu'on lui donne 100 coups de bâton sous la plante des pieds !»
Très certainement, j'avais un peu altéré la vérité en parlant de l'escogriffe, mais au fond, s'il ne voulait pas boire la bouteille de tafia, il convoitait quelque chose de plus. Il voulait confisquer la cargaison tout entière, et je ne devais plus le traiter que comme un ennemi. Pendant qu'on entraînait le condamné au supplice, Tony B s'était saisi de la bouteille. Il l'avait décachetée et débouchée à l'aide d'un os de poisson admirablement sculpté, et il commençait à en introduire le goulot dans sa bouche.
« Divine liqueur, la meilleure liqueur qu'il y ait au monde !»
s'écriait-il tout joyeux.
« Nous voilà sauvés !»
me disait Claude Marteau.
« Ah !»
poursuivit le monarque.
« Qu'on fasse venir la reine, je veux qu'elle goûte aussi à ce rhum !»
Un instant après parut une beauté un peu mûre, tête encadrée dans 2 longues tresses de cheveux noirs et pendants, et habillée d'une espèce de robe de fourrure.
« Voilà, lui dit son royal époux, une liqueur divine qu'apportent des hommes pâles. Goûtez-en un peu, madame. »
La reine en but et sauta d'aise.
« Qu'on appelle les princes, dit-elle à son tour.
Vinrent 2 jeunes gens dont l'un qui était l'aîné, l'héritier présomptif de la couronne, avait sur la tête une sorte de toque et sur le corps une petite collerette en poil d'autruche et dont l'autre, le cadet, portait une sorte de casque entièrement formé de plumes et de panaches. Tous 2 en burent et furent ravis.
Ah, l'agréable liqueur ! S'écrièrent-ils à leur tour.
Ici, je pris pour la seconde fois la parole, disant qu'il y avait sur notre embarcation plusieurs autres bouteilles que j'irais chercher pour le roi, mais en demandant en échange qu'on nous laissât entrer en commerce avec les habitants de l'île. Tony B nous donna carte blanche. Pour reconnaître ses bons procédés, nous fîmes divers cadeaux. À la reine, un miroir, aux trois princes, un revolver et un sabre. Toute la cour était dans l'enchantement, moins l'escogriffe et les deux hommes noirs qui nous regardaient d'un mauvais œil. Pendant 2 jours, nous eûmes le loisir de parcourir les états du puissant souverain tout en faisant notre négoce. Les naturels avaient de la poudre d'or, des plumes et de la gomme qu'ils nous abandonnèrent pour quelques objets de serrurerie et de confiserie, en sorte que, lorsque nous revînmes à Macao, non seulement nous avions la vie sauve, mais encore nous avions fort avancé le petit édifice de notre fortune. Ainsi, nous voilà de retour à Macao. Que de choses intéressantes à voir par ici! Nous sommes sur le seuil de cette Chine mystérieuse qui a fait si souvent, vous vous le rappelez, le sujet de nos conversations. Quand nous nous reverrons, nous conviendrons du voyage que nous aurons à faire tous les quatre à travers cet empire du milieu qui, dit-on, ne compte pas moins de 400 millions d'habitants. De Macao à Pékin, on ne voit pas toute la Chine, mais on en rencontre une assez grande et assez notable portion. Adieu, mes chers enfants, c'est-à-dire au revoir. Je vous quitte pour aller répondre à un persan, grand fumeur d'opium, qui fait des affaires avec nous. C'est sans doute une affaire très sérieuse, mais à laquelle je préférerais de 1000 fois le plaisir de vous voir. 1000 serrements de main pour vous, mes enfants, et mes compliments les plus respectueux à l'excellent Sir James Primrose. Jacques, ex-matelot de la Foudroyante, présentement chef de la maison Jacques et Claude Marteau à Macao.